Le temps des écrivains, une émission proposée par Christophe Onodibio.
Bonjour, il est 17h et c'est le temps des écrivains, le magazine littéraire de France Culture. Cette semaine, un dialogue entre deux auteurs qui convoquent deux autres auteurs, morts, illustres, admirables, dans leur nouveau livre. Pourquoi, comment, nous leur poserons la question. D'abord Marie-Hélène Lafont, prix Goncourt de la Nouvelle, prix Renaudot des lycéens, qui nous donne un Flaubert chez Buchet-Chastel. Bonjour Marie-Hélène Lafont.
Bonjour.
Et en face de vous, Salim Bachy, prix de la vocation Goncourt du premier roman, qui publie L'exil d'Ovide chez Lattès. Bonjour Salim Bachy.
Bonjour Christophe Onodibio.
Alors soyez les bienvenus autour de cette table, on vous a réunis parce que vos deux livres ont cette particularité de se mettre dans les pas de deux grandes figures d'écrivains. Ces livres n'existent peut-être même qu'à cause de ces deux écrivains, ces livres-là en tout cas. Pour vous, Marie-Hélène Lafont, c'est Flaubert. Flaubert qui est même le titre de ce nouveau livre, qui fait partie de la collection Les auteurs de ma vie, dans lequel un écrivain, donc c'est chez Buchet-Chastel, présente un écrivain, un autre écrivain qui lui est cher, avant d'offrir au lecteur une anthologie de textes de cet auteur. Qu'il est censé admirer, en tout cas, hein, plutôt un classique, hein, généralement. Vous, c'est donc Flaubert, Flaubert Forever, comme vous écrivez, ou Le Bon Gustave, avec lequel, dites-vous, vous vivez un amour de loin, et ça vous empêche pas de le crier, cet amour, vous en donnez même la substance dans des pages fiévreuses et joueuses, pleines d'intertextualité et d'interprétation, pleines de votre regard aussi sur l'œuvre du maître, que vous nous donnez à relire par ce que vous en dites, et par le jeu même de cette collection dont je disais qu'elle était une anthologie. Donc on peut lire, après lire Marie-Hélène Lafont, on peut lire du Flaubert. Flaubert, ce titre, je sais bien que c'est un peu la norme dans cette collection, mais intitulé pour un écrivain un livre Flaubert, ça sonne quand même comme le texte définitif sur l'écrivain. C'est pas mon Flaubert ou Flaubert suivi d'un sous-titre. C'est Flaubert, définitivement Flaubert. C'est ce que vous vouliez faire ?
C'est la collection qui le veut. Le titre que j'ai donné moi à mon texte, c'est Flaubert Forever. C'est une déclaration d'amour. C'est un exercice d'admiration, un peu irrévérencieux, que j'ai voulu un peu, je l'espère, dansant. Joueur, vous l'avez dit, jubilatoire et jouissif, puisque pour moi, Flaubert, c'est d'abord ça. C'est le corps même de la jubilation textuelle poussée à l'incandescence.
Oui, donc c'est le contraire d'un Flaubert universitaire, parce que c'est vrai, je vous disais, bien sûr, c'est le principe de la collection. Quand on vous dit, vous allez écrire, voilà, il y a une anthologie, puis il va falloir écrire sur Flaubert, on se demande un peu comment on va faire pour justement pas tomber dans le scolaire, même si vous êtes professeur de lettres classiques.
Certes, assurément. Mais en ce qui me concerne, le lien avec Flaubert est tellement mitonné comme un ragoût personnel que je savais de toute façon que je ne marcherais pas sur les brisées des universitaires qui font leur travail, même si je me suis beaucoup appuyée par exemple sur l'excellente biographie que j'aime beaucoup qui m'a été offerte par un élève de Michel Vinocq.
Oui, et d'ailleurs vous mentionnez cet élève, vous mentionnez ce cadeau fait par un élève.
Absolument.
Donc les élèves offrent encore des livres à leurs professeurs.
Bien entendu, et une biographie de Flaubert, un garçon de 14 ans, Guillaume.
Magnifique. Salim Bachy, vous publiez, vous, L'exil d'Ovide, c'est chez Lattès, et très vite on s'aperçoit qu'il n'est là, finalement, l'auteur des Métamorphoses, que parce qu'il est aussi l'auteur des Tristes et des Pontiques. Ce sont des lettres poèmes envoyées d'exil en 8 après Jésus-Christ, et que précisément c'est cet exil qui vous parle, qui fait écho à votre propre exil, vous, l'écrivain algérien qui avait quitté votre pays natal à l'âge de 25 ans pour la France, où vous avez choisi d'écrire. Alors la figure d'Ovide, vous nous la donnez à voir aussi de façon très personnelle, de façon très lyrique aussi, très élégiaque, mais cette évocation d'Ovide s'entremêle de réflexions qui concernent votre destinée d'écrivain exilé, entre marche dans la ville qui n'est pas justement la ville de l'enfance, qui est une autre ville, et convocation d'autres figures d'écrivains exilés qui vont à leur tour multiplier finalement les échos à votre condition propre d'écrivain exilé. C'est une constellation d'exil que vous nous donnez. Vous le dites, génériquement d'ailleurs, ça dépasse la condition de l'écrivain, c'est bien la condition humaine. Nos vies sont placées sous le signe de l'exil, sous le triste signe d'Ovide. Est-ce que c'est pas paradoxal, au fond, d'intituler votre livre L'exil d'Ovide, alors que vous nous parlez de l'exil de Salim Bashi ou d'un narrateur qui lui ressemble.
Oui, c'est paradoxal, mais je voulais vraiment écrire un livre sur Ovid. Je voulais d'abord écrire un roman sur Ovid, et puis ça s'est transformé en essai un peu sur les tristes et les pontiques, qui sont effectivement des lettres qu'il aurait adressées à ses familiers restés à Rome alors qu'il était en exil à l'autre bout de ce qui commençait à...
Qu'il aurait, vous dites ?
Oui, parce que je ne sais pas exactement si elles ont vraiment un destinataire ou si elles étaient constituées déjà comme une œuvre littéraire à part entière. Il y a quand même un peu une ambiguïté dans ces lettres. Oui, vraiment, j'étais vraiment intéressé par cet exil particulier d'Ovide et je voulais vraiment écrire un livre sur lui. Et ensuite, en essayant de comprendre ce qui se passait, j'ai effectivement ressenti une proximité avec Ovide. Je sais que c'est un peu immodeste de dire ça, mais je me suis senti ovidien, quoi.
Ouais, ovidien. Alors, ça serait quoi d'ailleurs être ovidien ?
Ça serait se retrouver sur une petite île comme ça tout seul et se lamenter du matin au soir sur son exil un peu doré. D'ailleurs, il a un exil doré à mon avis.
Rappelons peut-être les conditions, même si on reviendra plus tard sur les causes de cet exil, qui c'est un des grands mystères d'ailleurs de la littérature et de l'histoire romaine. Mais il est exilé sur une île en face de cette ville de Roumanie qui s'appelle Constanța.
C'est un tout petit îlot apparemment et il serait
chez les Sarmates à l'époque.
Et il se serait senti très très mal là-bas tout seul. Et donc il est exilé en l'an 8 par Auguste. On ne sait pas pourquoi. Enfin, d'après Auguste, c'est l'art d'aimer qui lui aurait valu les foudres d'Auguste. Mais c'est pas certain non plus, parce que je vois pas ce qu'il y a trop dans l'art d'aimer qui aurait pu inquiéter Auguste. Il dit aussi qu'il aurait vu quelque chose qu'il n'aurait pas dû voir. Là aussi, on sait pas trop ce qu'il aurait pas dû voir. En fait, peut-être une histoire un peu...
Privée.
Un peu privée, voilà. Enfin, mais bon, ça me paraît très étrange. Voilà.
Et donc, être ovidien, c'est ce sentiment de... C'est à la fois qu'un exil... Lui, c'était une île. Vous, c'est quand même la dimension d'un... Enfin, c'est d'ailleurs ce que vous voulez. Vous pouvez choisir votre exil, vous.
Je ne sais pas si je peux le choisir, vraiment. Ça, c'est vraiment... Enfin, je l'ai choisi au départ en arrivant d'Algérie en France. Je l'ai plus ou moins choisi. Mais depuis, je n'ai pas l'impression que je puisse choisir grand-chose. En fait, j'ai l'impression que quand même, il y a une fatalité dans l'existence.
Il y a un Auguste, quoi, qui vous...
Il y a un Auguste qui me poursuit.
Est-ce que quand on est auteur comme vous deux, est-ce qu'on est auteur parce qu'on est lecteur? Et est-ce qu'écrire sur un autre auteur dont on se sent proche, vous disiez, je me sentais proche d'Ovide, je pense à vous, pour vous avoir lu, que vous vous sentez proche de Flaubert, Marie-Hélène Lafont. Donc, est-ce qu'on est auteur parce qu'on est lecteur, et est-ce qu'on écrit sur un autre auteur parce qu'on voudrait aussi payer ses dettes, au fond, à l'égard de ceux qu'on a lus et aimés?
En tout cas, en ce qui me concerne, parce que je ne crois pas que ça soit forcément systématique, mais écrire et lire ne se séparent pas. J'ai longtemps lu avant d'écrire, puisque j'ai commencé à écrire tard. Mais il y a un lien très très organique, forcément, entre les deux. Je dis volontiers que c'est la respiration essentielle, et inspirer et expirer ne se séparent pas. Et écrire et lire, c'est vraiment de cet ordre-là. C'est un rythme d'existence essentiel. Alors évidemment, écrire sur Flaubert, je dis volontiers que la lecture d'Un cœur simple a été une des raisons pour lesquelles j'ai tant tardé à écrire. Parce que tout a toujours déjà été écrit en 30 pages, et point final. Donc on pourrait très bien rester dans cet état de sidération perpétuelle face à ce texte-là, par exemple. Parce que pour moi, c'est vraiment le texte, c'est l'épicentre du sisme de Flaubert, le cœur simple. Bon, il y a, je crois, pour moi j'écris depuis 22 ans, je publie depuis 15 ans, il y a peut-être quelque chose qui est de l'ordre de ce que vous dites, en effet. C'est-à-dire... publier à la face du monde, même très modestement et de façon très infinitésimale, que, en effet, ça peut... élargir la vie, et ça peut aider à vivre d'être un jour tombé dans le giron de Flaubert. Voilà. Et faire lire Flaubert. On me dit, quand on vous entend parler de Flaubert ou quand on lit ce texte, on a envie de lire ou de relire Flaubert. Alors ça, c'est la plus belle chose que l'on puisse me dire.
Voilà. Oui, parce que c'est le contraire de la paralysie dont vous parliez, face au génie, effectivement, d'un cœur simple. Et vous, Salim Bashi, est-ce qu'il y a une reconnaissance de dette vis-à-vis d'Ovide? Je ne sais pas si c'est un auteur que vous aviez lu beaucoup, mais en tout cas de ressentir cette familiarité à plusieurs dizaines de siècles après, quoi.
C'est un auteur que j'avais lu jeune, j'avais lu L'art d'aimer très jeune, parce que c'était un manuel de drague antique, donc c'était intéressant pour un jeune homme de le lire. Et ensuite, je l'avais un peu, moi, les métamorphoses m'étaient tombées un peu des mains, je trouvais ça très très compliqué, très très ennuyeux. Mais en revanche, oui, les amours, l'art d'aimer, les amours, et puis je suis tombé un peu par hasard sur les tristes et les pontiques, là c'est autre chose. Et là je trouve vraiment une proximité avec Ovid, en fait, une proximité d'être humain. Quoi. Ouais. Donc j'ai l'impression que c'est un homme qui parle à d'autres hommes ou à d'autres femmes, hein, ça n'a pas d'importance, mais c'est quelqu'un qui nous parle. Voilà. Ouais.
Et cette idée de dette, justement, d'écrire un livre aujourd'hui qui s'appelle L'exil d'Ovid, où certes vous parlez de vous, mais vous parlez aussi de lui, il y aurait aussi cette idée-là de contre-don, quoi, de don et de contre-don.
J'aime pas l'idée de dette parce que ça sous-entend une obligation, quoi. On est obligé de rendre hommage parce que quelqu'un nous a plu. Non, je suis pas obligé, je me sens plutôt en liberté par rapport aux écrivains. C'est pas un hommage à Ovid. Ovid n'a pas besoin d'un hommage, hein. Je veux dire, il n'y a pas besoin de...
C'est
Salim Bachy à la rigueur qui aurait besoin d'un hommage. Ce serait Salim Bachy à la rigueur, mais je veux dire, Ovid n'a besoin de personne, hein. C'est comme Flaubert, en fait, on est là.
Pourquoi Salim Bachy aurait besoin d'un hommage?
Non, mais je parle dans une espèce d'ordre de, si on devait faire une échelle et un panthéon des écrivains, tout ça, je crois qu'on est un peu, il faut un peu être modeste par rapport à ça. J'ai pas d'hommage à rendre à Ovid à la rigueur, j'aimerais bien que les gens le lisent, finalement.
Tu sais que la ville de Rome s'est excusée, L'année dernière,
voilà. C'est un peu tard quand même.
La mairie de Rome, pour dire voilà, on l'a exilé et en fait on lui présente nos excuses au nom des Romains, alors bon, du 21e siècle.
C'est un peu tard, je trouve, mais bon.
Le professeur de lettres classiques que je suis,
Marie-Hélène Lafont,
je ne peux pas m'empêcher de glisser là que tout ce qui met les auteurs latins ou grecs d'ailleurs, hein, tout ce qu'il aimait en valeur et tout ce qui fait parler d'eux est bon à prendre. Donc, ne serait-ce que pour cette raison-là, vous avez tout à fait eu raison de marcher sur les traces.
Voilà, de mettre Ovid
dans le titre, même si c'est pas tout à fait sur Ovid. Ouais.
Je posais la question tout à l'heure à Marie-Hélène Lafont sur ce rapport entre lecture et écriture. Je voudrais juste vous citer cette très belle phrase de Borges. Que d'autres se targuent des pages qu'ils ont écrites, moi je suis fier de celles que j'ai lues. Est-ce qu'on est vraiment donc lecteur? Enfin, chez vous, Salim Bachy, comment s'est articulé, Marie-Hélène Lafont en a parlé, mais la lecture et l'écriture?
Bah forcément, on passe par la. Enfin, pour moi, c'est la littérature qui m'a un peu sauvé. Enfin, je veux dire, sans les livres, moi j'ai vécu, je suis né en Algérie, j'ai grandi là-bas, il y avait absolument rien pour me distraire, donc c'était les années 70, un pays assez triste. Et la littérature m'a sauvé la vie, parce que moi j'étais seul et je lisais des livres, effectivement, et c'est ce qui m'a sauvé la vie.
Est-ce que vous souscrivez, puisque c'est l'objet de cette collection, Marie-Hélène Lafont, c'est un écrivain contemporain qui nous parle d'un classique, hein, et qui nous le fait lire, donc en nous proposant une anthologie, hein, une sélection, qui est la sélection de l'écrivain, hein, oui. Aussi. Et justement, on y reviendra, parce qu'il y a des choses, il y a des choix sur lesquels je voudrais vous interroger quand même. Calvino disait qu'un livre classique, alors ça on connaît la citation la plus évidente, hein, c'est un livre qui n'a jamais fini de dire ce qu'il a à dire, mais il disait cela qu'on cite beaucoup plus rarement, on appelle classique un livre qui se construit comme équivalent de l'univers, à l'instar des anciens talismans. Est-ce que c'est ce rapport que vous avez par exemple vous avec Flaubert, un rapport presque talismanique, de l'ordre de l'objet qui vous accompagne et qui vous change la vie, qui vous garde en vie aussi?
C'est-à-dire que le corpus textuel de Flaubert, c'est un vaste giron, voilà, dans lequel, en effet, on trouve place, ça nourrit, ça donne sens, ça console, ça secoue, ça met au pied du mur des évidences premières éventuellement, et ça accompagne, ça m'accompagne depuis toujours. Et il y a quelque chose d'inépuisable aussi dans ce recours-là, c'est-à-dire que on peut y revenir constamment, toujours quelque chose est à prendre, quelque chose de nouveau qu'on n'avait pas vu et qui vous saisit. Donc c'est de l'ordre de l'étreinte perpétuelle, très très vitale, quoi, très essentielle.
C'est drôle parce que giron, étreinte perpétuelle,
ah oui. Je dis corpus textuel.
On est dans le physique, hein,
ah oui,
quand vous parlez de Flaubert.
C'est une affaire d'étreinte textuelle. Je dis volontiers que l'écriture, c'est un corps à corps avec la langue, et pour moi, la lecture, c'est un corps à corps avec une langue aussi, avec un monde. Et l'ensemble des textes de Flaubert, c'est pour moi, le livre-monde.
Oui, un équivalent de l'univers, là, comme disait si Calvino. Voulez. Est-ce qu'on écrit toujours, est-ce que vous, vous écrivez accompagné Salim Bashi, justement? C'est le, la belle expression.
Par qui
justement, par qui vous voulez. Mais non, mais par des auteurs, par des auteurs que
j'ai
vous avez.
Beaucoup, au début, j'ai écrit accompagné, effectivement, de Joyce, mais ça, je vais passer pour un, vraiment un type immodeste. J'ai beaucoup lu Flaubert en écrivant mon premier roman... Et c'est un grand stérilisateur, Flaubert. Il faut faire attention.
Donc vous êtes d'accord avec ce que disait Marie-Hélène Lafont, quoi. C'est-à-dire que
oui,
trop
oui,
lire,
oui, oui, il y a pas.
Ça empêche d'écrire.
C'est à la raison de dire que c'est un patron, dans le sens où c'est le dessin avec lequel on fait la robe, et la robe c'est la littérature. Et pour la littérature française, c'est quand même la grande référence, et pour le roman en fait. Mais en même temps, c'est un grand stérilisateur parce que si il n'a pas écrit beaucoup. En ce sens-là, il peut aussi bloquer de jeunes écrivains parce qu'il y a une telle exigence dans la forme. Et je suis assez ambivalent vis-à-vis de lui. Moi, j'aime beaucoup sa correspondance qui est beaucoup plus libre, beaucoup plus sincère. Alors que dans ses romans, il s'est toujours empêché, d'une certaine manière. Flaubert n'a pas voulu donner le réel Flaubert, quoi. Sauf dans l'éducation sentimentale où on échappe un peu à ça. Mais en général, il s'est empêché, quoi.
Oui, qu'est-ce que vous en pensez?
Il me semble que s'empêcher, justement... La question de la rétention et de la tension qu'elle suppose, c'est constitutif de l'écriture.
Oui, peut-être, peut-être pas, je ne suis pas tout à fait d'accord. Moi, je pense qu'il y a aussi une autre forme d'écriture qui est celle du soi et qui peut aussi, on adore, il y a Proust, il y a des gens comme ça qui ne se sont pas empêchés, justement.
Ou Miller, où on est dans le volcanique, dans la lave.
Je ne dénie pas le fait que c'est quand même le grand écrivain du 19e siècle français, probablement. Même s'il avait un rapport avec les autres écrivains. Enfin, ça me fait rire parce que dans sa correspondance, il dit beaucoup de mal, par exemple, des personnages de Victor Hugo. Mais quand il écrit à Victor Hugo, on voit le petit enfant qui lui écrit en lui disant « Ah, mon cher maître, enfin, voilà, quoi. »
Bien
assez
sûr, il est humain trop humain. Il a ses faiblesses, il fait son Percy, il fait la cour. Voilà,
Je pense qu'il a une sincère admiration pour Hugo, hein, vraiment. Mais en même temps, il ne peut pas s'empêcher de dire que ses personnages sont en pain de sucre, par exemple.
Mais il a l'admiration n'exclut pas chez lui, et j'espère aussi, toute proportion gardée chez moi, une forme de regard aigu, acéré. Mm-hmm. Voilà.
Sur Maupassant notamment, puisqu'il a encouragé.
Il l'a fait Maupassant, il a fabriqué Maupassant.
Oui, il l'a porté sur les fonds baptismaux.
Donc il a fabriqué.
C'est la constellation normande. Je ne peux pas écrire quand je lis Flaubert, ou je ne peux pas lire Flaubert quand j'écris. C'est ce que vous écrivez, Marie-Hélène Lafont. Vous avez, Salim Bashi, beaucoup lu, parce qu'on parle beaucoup de Flaubert, parlons un peu d'Ovide aussi, c'est important, vous le disiez, hein, c'est texte antique. Vous avez beaucoup lu Ovide en écrivant, ou justement, fallait le mettre à distance pour écrire cet exil d'Ovide.
Entre l'écriture du livre et puis la lecture des Tristes et des Pontiques, il s'est passé quand même quelques temps, quelques années peut-être. Et j'ai essayé de le mettre un peu effectivement à distance et puis de parler surtout de... En fait, c'est un autoportrait en creux. En fait, c'est pas vraiment... Je parle un peu d'Ovide, mais je parle effectivement d'autres écrivains et je parle aussi d'un peu de ma situation... d'exilé.
Oui, d'exilé, même parler de double exil, il y a même un triple exil, on en parlera. Par rapport à Flaubert paraît assez proche de nous, c'est le 19e, la vie de province, des classes sociales qu'on connaît un peu, même si ça a un peu bougé. Lire justement, se frotter aujourd'hui quand on est au 21e siècle avec quelqu'un de l'an 8 après Jésus-Christ, l'année des pontiques et... Il est triste. Est-ce que c'est plus compliqué, Marie-Hélène Lafont? Vous enseignez, d'ailleurs. Est-ce qu'il y a des précautions à prendre? Est-ce qu'il faut parler différemment? Comme vous le faites avec Flaubert, d'ailleurs, de façon très cavalcadente.
De l'apprivoisement, probablement. Et des pistes à donner pour pouvoir entrer dans ces textes et y trouver place, y trouver sens et s'en nourrir. Mais ça, en principe, c'est le travail, justement, des gens qui, comme moi...
Moi, j'aimerais vous poser une question. Moi, je trouve que Flaubert n'est pas fait pour les jeunes. On l'enseigne tôt, en fait. On le fait lire assez tôt. Et je trouve que ce n'est pas un auteur qui est fait pour des...
Pour moi, les textes ne sont pas faits, si vous voulez, ni, si je puis dire, pour les jeunes, ni pour les moins jeunes.
Non, mais il peut
ils
y avoir
existent
une difficulté.
Et ils en portent ou ils n'en portent pas. Alors, évidemment, moi, quand j'avais 14 ans, j'étais en quatrième, on me fait lire Madame Bovary, je pense des extraits uniquement. Je ne comprends rien à Madame Bovary, mais en même temps, j'entends qu'il y a là une voix, qu'il y a là une force. Et évidemment qu'aujourd'hui, si on assène à des gamins de 14 ans Salammbô, Hein.
Alors, ce qu'on fait.
Je pense que...
Ou Madame Bovary, d'ailleurs. Voilà.
Ou Madame Bovary, plus que Salambeau, d'ailleurs. Il y a, en effet, des passerelles à mettre en place, des pistes à frayer, hein, à la machette, dans le maquis textuel. Mais ça, c'est le métier de professeur.
Ou le métier d'écrivain, parce que c'est un peu ce que vous faites l'un et l'autre, en le contemporanéisant, finalement.
Mais c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de ça. Parce que d'être... J'arriverai pas à dire le mot que vous venez de dire là.
Oui, donc, il est très dur à dire. Je me suis beaucoup entraîné.
ce que j'essaie de faire, mais de manière très instinctive, hein, extrêmement instinctive, dans ce texte-là, c'est d'aller dans l'immense continent de Flaubert à des endroits où on n'est pas du 19e siècle ni du 21e. On est tout simplement humain, trop humain.
Mais ce que disait Salim Bashi, il a raison. Au fond, quand on lit Ovid, alors c'est vrai que c'est la traduction de Marie Dariussec qui a très très bien retraduit justement les...
Et qui est très moderne aussi, c'est ça qui est bien, qui remet...
C'est vrai que quand on lit « Est-il permis que je le dise ?» Ma muse, à sa façon, avait un nom illustre et elle était de celles qui ont beaucoup de lecteurs. Que l'envie desserre ses mâchoires et laisse enfin mes cendres en paix. J'ai tout perdu. Il n'y a pas besoin.
C'est touchant, c'est magnifique.
On ne sent pas la distance des siècles.
Oui, c'est magnifique. Ouais.
Bah ça, c'est
un travail. Ça s'adresse à nous.
Pour le coup, Marie Dariussec fait un travail de traducteur passeur. Il y a une limpidité, c'est ça.
Exactement.
Et moi, je trouve que si on nous avait enseigné Flaubert, enfin, au collège ou au lycée, par la correspondance, par exemple, on aurait eu quelque chose d'autre.
C'est intéressant parce que vous commencez, alors je voulais en parler après, mais on va en dire un mot, vous commencez par la correspondance. Exactement.
Moi, c'est ce que j'ai
dit. À sa maman.
Oui, voilà, parce que la femme de la vie de Flaubert, c'est sa mère, Madame Mère. Et donc, j'ai, dans le continent de la correspondance, hein, 5 volumes de la Pléiade, donc c'est énorme. J'aurais pu choisir quelques lettres à George Sand, par exemple, la correspondance avec George Sand, c'est vraiment un monument. Mais j'ai choisi la mère. Il fallait choisir. Et en effet, il y a des passages de la correspondance. Moi, j'ai déjà lu des passages de la correspondance de Flaubert pendant des voyages avec mes élèves à Rome. Et leur lire dans le car à des gamins d'aujourd'hui, des passages de la correspondance de Flaubert, choisis, expurgés, bien entendu, parce qu'il y a quand même
des carabinés.
Alors là, je vous assure, il le faut. Ouais. Sinon, je suis immédiatement traduite en justice.
C'est vrai. On vous soutiendra, Marie-Léna.
On
fera une pétition.
En effet, ça les met en appétit.
Quelque chose d'immédiatement accessible. C'est incroyable, formidable.
D'immédiatement accessible dans la correspondance, ça c'est certain.
Eh bien, on y va chez Flaubert par Marie-Hélène Lafon. C'est le titre, Flaubert par Marie-Hélène Lafon. C'est dans la collection Les auteurs de ma vie. C'est chez Buchet-Chastel. On y va, on écoute d'abord votre choix musical. Vous avez choisi Il fait beau des Frères Jacques. On écoute.
Le temps des écrivains, Christophe Onodibio.
Quand le soleil s'est levé là-bas derrière Pantin, ça n'a été qu'un cri dans le petit matin. Il fait beau. Les oiseaux de Paris filent aux chambres en faciel, aux quatre coins de la ville ont porté la nouvelle. Il fait beau. De la muette à Pigalle, on se l'est répété, une bonne nouvelle, ça vaut le coup d'en parler. Il fait beau.
Et tout Paris bientôt fredonne obstinément ce refrain de trois mots monotone et charmant.
Il fait beau, tout le monde est content. Puis le soleil joyeux montant un peu plus haut, en fin de matinée il y a quelque chose de nouveau. Il fait chaud.
Il fait beau, il fait chaud. Les Frères Jacques, en fait, c'est le choix de Marie-Hélène Lafon qui publie un Flaubert chez Buchet-Chastel. Ce choix musical, c'est lié, il fait beau, il fait chaud, c'est Flaubert, ça vous fait ça?
Oui, ça me fait ça. C'est la douceur, c'est la joie, il fait beau, il fait chaud. Et aussi, c'est à cause du corps des Frères Jacques. Et des Justes au corps, dont je me demande s'ils pourraient nous donner une mince idée du maillot de bain de Flaubert.
Oui, vous parlez de Flaubert nageur.
Première force. Ouais. Lui-même insiste beaucoup sur cet aspect-là. C'est lui qui se dit nageur de grande force. Ouais. Et en effet, il nage dans les eaux vertes de la Seine à croiser. Et donc, mais vraiment une question qui me saisit régulièrement. Dans quel appareil nage-t-il? Et je pense tout de suite au maillot de bain qu'on voit aux enfants sur les tableaux de Maurice Denis, ou bien ces sortes de Justes au corps invraisemblables que portent les Frères Jacques. Parce que les Frères Jacques, il faut les écouter, mais il faut les regarder. Ils sont inénarrables.
Donc vous pensez au costume de bain de Flaubert en, quand vous
en
écoutez les frères Jacques.
Et ouais. Ils ont un côté Bouvard et Pécuchet aussi, les frères Jacques. Si ce n'est qu'ils sont quatre.
Ouais. Les auteurs de ma vie, donc c'est cette collection dans laquelle un écrivain contemporain est invité à partager son admiration, hein, c'est comme ça, hein, je cite un peu son admiration pour un classique dont la lecture a particulièrement compté pour eux, pour ces écrivains-là. Donc vous, c'est Flaubert, donc le livre se présente, comme tous les livres de cette collection, par un petit essai, enfin un texte sur Flaubert, avant d'offrir aux lecteurs, aux lectrices, une anthologie que l'écrivain, en l'occurrence vous pour Flaubert, choisit. Alors c'est Flaubert, vous, Flaubert Forever, comme vous écrivez, ou le bon Gustave aussi, avec lequel, je le disais à l'orée de cette émission, vous vivez un amour de loin. Je vous cite d'ailleurs, c'est intéressant, c'est presque la première page. Flaubert Forever, je l'appelle aussi le bon Gustave, alors que je vis un peu avec lui. Nous faisons bon ménage, c'est facile avec les morts, l'amour de loin. Je vis un peu avec lui, l'amour de loin, ça vous empêche pas de le crier, cet amour, vous en donnez aussi la substance dans ces pages. Je disais tout à l'heure qu'elles étaient à la fois fiévreuses, parce qu'il y a ce corps qui est très très présent, et joueuses, parce que c'est assez délicieux, plein d'interprétations, d'intertextualité, de jeux aussi avec les mots, de références qu'on n'attendrait pas forcément dans un texte, par exemple, de référence à Gainsbourg, Elisa, hein, la chercheuse de poux. Vous commencez ce titre, donc, vous commencez cet essai par ces mots, hein, c'est le titre de l'essai, Flaubert Forever, en anglais, comme ces petits mots qu'on grave quand on est jeune, ces petits mots d'amour. Pourquoi l'anglais? C'était une façon de le faire sonner plus rock, ou c'est parce qu'il est normand, que Le Havre n'est pas loin et que c'est la ville la plus anglaise de France à cause du foot et du port et des dockers?
Et bien, de Jeanne d'Arc aussi.
Si vous voulez pour tout ça, mais aussi parce que pour toujours, ça fait très mortuaire. Tandis que Forever, c'est beaucoup plus amoureux que mortuaire, Forever. Et puis aussi, pour une sorte de pied de nez, si vous voulez, voilà, Flaubert classique de la littérature française, eh bien, on va nous mettre un peu d'anglais par là. Enfin, il y a aussi, parce qu'on est dans l'irrévérence amoureuse constante dans ce texte.
Oui, mais alors il fallait le rendre un peu plus rock, plus jeune, plus branché, justement, dans cette perspective, tout ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut, dans les classiques, il faut frayer un autre chemin pour le donner à lire au plus jeune.
Il a une image un peu bedonnante, alors que...
Il en parle lui-même,
d'ailleurs. Oui, bien sûr, je deviens bedaine, j'entre dans la catégorie de ceux avec qui la putain est embêtée de piner. C'est lui qui l'écrit, il n'a pas 30 ans, il rentre du voyage en Orient. Donc, il a ce rapport-là à son corps, il se dégarnit, c'est toujours ainsi qu'on le voit, avec ses moustaches, etc. Mais il y a une forme de jeunesse irrémédiable dans ces textes, et j'ai choisi d'ailleurs comme portrait, puisqu'il y a un portrait qui ouvre le livre, j'ai choisi un portrait d'extrême jeunesse, d'un Flaubert adolescent, lipu, chevelu, et les témoignages de ses amis disent à quel point il avait une forme de séduction physique, qui tenait notamment à ses yeux, il avait de grands yeux très clairs, à la couleur un peu indéfinissable, et qui se mouillaient facilement de larmes. Il faut dire la tendresse.
On va vous entendre lire justement ce texte joueur, Marie-Hélène Lafont. Il faut peut-être dire un mot de la construction, en fait. C'est un peu assaut et gambade, en fait.
J'allais le dire. Assaut et gambade, de manière très, très pulsionnelle, organique. Voilà.
Ah bah c'est bien, justement, c'est une espèce de liberté avec...
Salut Bachy.
C'est une vraie liberté que vous prenez avec Flaubert et vous naviguez comme ça dans les romans. C'est vachement chouette, ça, je trouve.
Alors je lis le « J'aime son Charles ».
Exactement, « J'aime son Charles ».
J'aime son Charles. Son Charles et les boudins velus de sa faramineuse et fatale casquette. Il n'eût pas fallu commencer comme ça, au pensionnat et dans la vie, commencer par cette casquette indicible, ce couvre-chef assassin, ce casque qui tue, cet engin de mort pure. Choisi, ourdi, mitonné, façonné par la mère. Ce sont les mères qui le font, parfois. Jules Vallès s'en souviendra au chapitre 5 de l'Enfant. J'aime son Charles qui ne voit rien venir, rien de rien de rien. Son Charles qui se débat et n'y tient plus entre sa mère et ses femmes, entre les trois Madame Bovary. Les trois Madame Bovary. La première et la troisième plus encore que la fugace deuxième veuve rance et néanmoins délicatement prénommée Héloïse, dont le malencontreux bouquet de mariage, noué par des rubans de satin blanc, s'étiole à Tostes, dans une carafe, sur le secrétaire, près de la fenêtre de la chambre conjugale. Les trois, Madame Bovary donc, l'auront usée, épuisée, éreintée, moulue, vidée. Il se sera appliqué en gros garçon placide, il aura tiré la langue et taillé ses crayons et tâché de bien faire, de faire au mieux. De toute sa vie, courte vie, il n'en reviendra pas de cette grâce inépuisable, insigne, énorme, violente, capiteuse, foudroyante, lancinante, insoutenable et vertigineuse qui lui vaut de vivre dans l'orbe de Mademoiselle Rouault. De respirer le même air qu'elle, de se frotter à ses jupons, de manger à sa table, de froisser ses dentelles de nuit, de s'immiscer, rouge et dardé, luisant, gorgé de jus généreux, pourléché de suc soyeux, entre ses cuisses nacrées, de la chevaucher, de l'honorer, de la féconder, de la voir s'arrondir, d'être le père de son enfant, le père de leur enfant. C'est à la jambe cassée de Théodore Rouault que Charles doit tout. C'est par cette fracture simple, propre, accommodante et opportune que Charles rencontre son destin, devient lui-même, entre dans le vif de son sujet, pénètre au cœur cuisant du réacteur, connaît en une poignée d'années son assomption et son apocalypse.
Merci Marie-Hélène Lafont pour cet extrait de Flaubert, donc qui paraît chez Buchet-Chastel. Alors c'est vrai que j'ai choisi ce passage, j'aime son Charles, parce que, vous dites d'ailleurs aussi plus loin, je donne tous les Frédéric pour un Charles, alors que c'est pas forcément ce qu'on aime, Charles Bovary. Charles Bovary, comme il disait lui-même quand il se présente dans la classe et que le maître l'interroge et qu'il tient cette casquette ridicule, terrible, totalement monstrueuse au sens étymologique du terme. C'est encore une fois le plaisir d'aller à rebrousse-poil, et c'est pas seulement, j'utilise pas l'expression à cause de la casquette, voilà.
Il y a quelque chose de cet ordre-là, bien sûr, mais c'est beaucoup plus profond que ça. Et j'ai le goût, et les livres que j'écris en témoignent, des écrasés, des massacrés de famille. Et Charles Bovary, c'est vraiment ça. Et ça m'apparaît, si vous voulez, rétrospectivement, je n'y avais pas forcément pensé, mais dans la mesure où vous me posez cette question, je me dis au fond, Charles qui n'arrive à rien. Et en qui, d'ailleurs, on ne trouve rien puisqu'on l'autopsie. Maître Canivet, mandé par Homais l'autopsie, il ne trouve rien. Voilà. J'ai le goût de ces personnages-là. Et ce n'est pas tout à fait un hasard si dans l'immense corpus de Flaubert, je vais chercher celui-là.
Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer, c'est un texte de 50 pages, à peu près, avant l'anthologie, comment vous avez travaillé? Parce que vous disiez tout à l'heure l'immense continent flaubertien. Il y a, je voudrais citer un autre passage. Comment ça tord? Comment ça mord, Flaubert? Flaubert est mordu, Flaubert est immordu. Depuis la chanson de Gainsbourg, Elisa cherche-moi l'époux, les Elisa sont des chercheuses de poux. Et Rimbaud, là-dessous. Rimbaud et ses deux grandes sœurs charmantes. Elisa encore tout de même, de rechef, lancinante Elisa, l'amour de loin. On a l'impression que c'est une sorte de collage. Vous prenez un plaisir fou, mais d'abord, vous avez dû vous replonger, encore une fois, c'est la question que je posais à Salim Bachy, dans l'œuvre de Flaubert pour ce texte-là, où vous avez oublié tout ce que vous saviez pour composer, tisser, tresser.
Non, justement, j'ai pris distance. J'ai laissé les textes à l'écart parce que je relis régulièrement. J'ai laissé les textes et je me suis livrée à ce que je fais constamment quand j'écris, ce que j'appelle de la rumination. J'ai laissé monter. Et ces associations-là, par exemple, se sont faites extrêmement librement. Ça passe beaucoup par le corps. Vous voyez Rimbaud, par exemple. Quand Rimbaud monte, il y a le prénom, je vois arriver Rimbaud et immédiatement, je pense aux images que l'on a de Rimbaud, aux images que l'on a de Flaubert, et je les mets tête bêche, je les affronte. Ça vient tout seul. C'était très jubilatoire de faire ça. Alors ensuite, je retravaille le premier jet. bien entendu.
Et est-ce qu'il y avait justement un souci, alors, rhétorique de l'ordre de la captatio benevolentiae, capter la bienveillance du lecteur, dans cette perspective aussi, c'est un classique, et on va non pas le déclassifier, déclassifiquiser, surtout pas, mais on va montrer que ce qui est classique n'est pas forcément de l'ordre de l'austère et de l'inerte, alors que ça peut être bondissant, parce que vous prenez un parti pris. Le parti pris, il est bondissant, c'est la cavalcade.
J'aime beaucoup cet adjectif. Oui, c'est très. Flaubert est très dansant. Voilà. Il faut pas avoir peur. Voilà. Ne pas avoir peur des classiques. Parce que l'idée du classique, souvent, ça vous fige, en effet, on le disait tout à l'heure. Et on peut y mettre, je crois, dans la façon de les aborder, une liberté, une sensualité, un appétit jubilatoire qui, je l'espère, va être partagé. Voilà. Et là, je me suis. Laisser en effet une grande liberté.
Il y a même des phrases qui sont parfois, enfin, sibyllines. Enfin, on les comprend. Mais par exemple sur l'imparfait, vous dites tout ça à cause de l'imparfait, sans expliquer davantage. Je vous cite en manger par cœur, manger du Flaubert par cœur. Vous parliez d'un cœur simple tout à l'heure. De courtes rasades solides, des jets, une poignée de jets têtus, des ronces. En asséné, en dévidé à ses amis, à ses amants, à ses élèves, à des lecteurs qui n'en peuvent mais. Sans réciter à l'intérieur, muettement pour soi, quand on ne dort pas, quand on flotte dans le métro, quand on marche dans la rue, sans réciter pour la paix et pour la joie, être nourri d'eux, être adossé à cause de l'imparfait, c'est à cause de l'imparfait. Sans plus d'explication.
Et non, plus d'explication. Je crois que ce qui m'a retenu quand j'ai lu Madame Bovary, enfin des... morceau de Madame Bovary en quatrième, c'était l'imparfait. J'ai rien compris à Madame Bovary.
Ouais. C'est-à-dire, l'imparfait, vous permettez quoi ?
L'imparfait qui vous transporte dans un passé qui ne passe pas. Et je ne peux pas l'expliquer. Ce serait le réduire que de l'expliquer. Il y a quelque chose qui m'a emporté là, à cet endroit-là. Le point-virgule, mais ça, je ne le savais pas à cette époque-là. Et pour moi, ce sont les deux points stylistiques fondamentaux chez Flaubert.
Et cette autre phrase, en sous-texte, comme on porte des sous-vêtements, Oser Flaubert en sous-texte dans un roman que je commets.
Oui.
Quel est-ce ?
Ça c'est Joseph.
Voilà, c'est ça.
J'avais le matériau de ce roman Joseph, La vie d'une ouvrière agricole, que j'ai publié en 2014. Je l'avais depuis des années en tête et je n'y trouvais pas forme. Et là, très concrètement, c'est à l'occasion d'une de mes relectures lancinantes d'Un cœur simple que, je ne sais pas pourquoi je ne l'avais pas été auparavant, mais j'ai été saisie. Je me suis dit, tu as la forme de ton roman des ouvriers agricoles. 5 temps. Tu termineras avec le reposoir, comme le reposoir de Félicité. Il avait eu comme un autre son histoire d'amour. Elle avait eu comme une autre son histoire d'amour. Voilà. Et je me suis sentie immédiatement dans une dynamique. J'avais la dynamique, la forme du texte.
Mais donc, c'est le contraire de ce que vous disiez tout à l'heure. Ça ne stérilise pas.
Pendant longtemps, ça m'a stérilisé. Ouais. Avant que je ne commence à écrire. Ouais. Avant que je ne commence à écrire en 96.
Mais quand vous dites que je ne peux pas écrire et lire Flaubert à la fois.
Oui, mais là, vous voyez par exemple, quand j'ouvre Le chantier de Joseph, ayant cette impulsion, je ne relis pas Le cœur simple, je le laisse de côté.
Et alors, dans l'anthologie, donc, vous commencez par la correspondance, mais vous choisissez une lettre à sa mère, la femme de sa vie. Lui, l'homme du rut, qui fourrage, vous le dites assez, l'homme du rut, Flaubert le carnassier, c'est encore une de vos expressions.
Tendre.
Bah, vous choisissez cette porte d'entrée, maman, quoi.
Oui, maman, parce que il écrit des lettres d'amour à sa mère. Surtout quand il est en voyage, par exemple. Et il vit avec elle toute sa vie. Elle ne meurt que 8 ans avant lui, vous vous rendez compte? Et il élève avec elle la fille de feu, sa sœur. Donc sa nièce à lui et sa petite fille à elle. Donc c'est une structure familiale. Et d'ailleurs avec une immense tendresse, une immense affection. Les lettres que Flaubert écrivait à sa sœur avant qu'elle ne meure, quand il était étudiant à Paris, notamment. Et les lettres ensuite qu'il écrit pendant toute sa vie à Liline, c'est-à-dire la Caroline, l'autre Caroline, la nièce, sont des monuments de tendresse. Donc, vous voyez, tout ça, c'est le même homme. Et on pense toujours Flaubert, le rut, etc., 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 Louise Collet, les prostituées, etc. Mais enfin, Flaubert, il a quand même passé beaucoup de temps à Croisset.
Où lui, il s'exile volontairement.
À vivre avec sa mère. Hein.
Exactement.
Voilà. Alors, évidemment, quand il allait à Paris, certes, il ne devait pas se refuser grand-chose. Mais il a passé beaucoup de temps là-bas, où sa vie, à cet égard, devait être assez monacale.
Alors, rien sur Salammbô, rien sur la tentation de Saint-Antoine. Vous dites que vous n'êtes pas à la hauteur, hein, je vous cite.
Ça m'écrase.
Voilà. Ces femmes ont trop de tout, de chair, de couleur, d'odeur, de mots, de phrases, surtout de phrases. Ces femmes sont trop, et alors, tant pis. Tant pis pour moi, mais pour le lecteur, il n'avait pas le droit, lui, aux nomenclatures phéniciennes dont parlait Pierre Michon, que vous citez, d'ailleurs.
Oui, bien sûr. Oui, mais l'anthologie est une anthologie totalement subjective. Donc, dans la mesure où le livre, on ne peut pas excéder un certain volume textuel, si vous voulez, j'ai taillé vraiment dans les textes avec beaucoup de... Ça a été très difficile pour moi, hein, de choisir dans Un cœur simple ou de choisir dans Madame Bovary. J'ai taillé ce qui me semblait le plus incandescent et le plus à même de nourrir un lecteur qui, par exemple, aurait toujours été tenu éloigné de Flaubert, une vieille barbe, etc., et qui se picorant là-dedans, y trouverait place.
Vous avez trouvé en le secret de Flaubert, en tout cas ce qui vous plaisait chez lui, au niveau de la langue, vous parliez de cette langue et de ce corps, vous pourriez le dire, ça, cette magie flaubertienne, je ne sais pas comment dire, cette technique, cet art, aujourd'hui, maintenant
après... Le point-virgule, l'imparfait... La façon de donner un rythme extrêmement singulier, dont je ne sais pas de quoi il procède, à chaque phrase. L'obsession de la langue. Et qui, à mon sens, ne sent pas la sueur. Parce que l'obsession de la langue qui sent la sueur, c'est mortel.
Donc, anti-Cocteau, l'œuvre est une sueur, disait-il.
Oui. Ouais. Mais là encore, c'est irrémédiable et irréductible. Ça résiste à l'explication. Vous voyez ? Il n'y a rien de mieux à faire que de lire Flaubert à voix haute.
Vous terminez par le dictionnaire des idées reçues. Homère.
Oui.
Homère n'a jamais existé, célèbre par sa façon de rire, un rire homérique. C'est l'une des idées à faire passer. Flaubert, c'est un grand rire. Flaubert, c'est sérieux, mais c'est aussi extrêmement drôle et libérateur et révolutionnaire.
La joie. La jubilation.
Alors, Salim Bashi. Ovide, c'est pas tellement la joie dans les œuvres que vous avez choisies, les tristes et les pontiques. On va passer à votre livre, L'exil d'Ovide, qui paraît chez Lattès. Et vous avez choisi, vous, comme musique, Rachid Taha, Ya Raya. Raya de Rachid Taha, c'est le choix de Salim Bashi qui publie L'exil d'Ovide chez Lattès. Rachid Taha a disparu il y a très très peu de temps, il nous manque. Pourquoi ce choix, Salim Bashi? C'est l'exilé pour vous, Rachid Taha et Ovide, même combat?
C'est la chanson surtout qui est une chanson de Dahmen Harrachi au départ et qui a été reprise par Rachid Taha et qui est effectivement qui a été la chanson de tous les émigrés algériens en France et qui ont écouté ça depuis les années 70. Donc oui, je trouvais qu'elle était peut-être bien choisie.
Ya Raya, ça veut dire
celui qui part.
Voilà, celui qui part, exactement. Alors Salim Bachi, vous publiez, vous, donc L'Exil d'Ovide, hein, chez Lattès, et très vite on s'aperçoit qu'il n'est là, l'auteur des Métamorphoses et de L'Art d'aimer, que parce que, en tout cas c'est ce qui vous intéresse en l'occurrence là chez lui, que parce qu'il est aussi l'auteur des Tristes, des Ponti, qui sont moins connus que L'Art d'aimer et les Métamorphoses, et qui sont ces lettres poèmes envoyées d'exil en 8 après Jésus-Christ, et que cet exil vous parle. Il a été exilé par Auguste, Ovide. On n'a jamais trop su pourquoi. Il y a plusieurs thèses qui s'affrontent. On va peut-être en parler, entrer dans le détail. En tout cas, cet exil résonne en vous, fait écho à votre propre exil, vous, écrivain algérien, qui avait quitté votre pays natal à l'âge de 25 ans pour la France, où vous avez choisi d'écrire. Et cette figure d'Ovide, vous la donnez à voir, comme Marie-Hélène Lafont le fait avec son Flaubert, de façon extrêmement personnelle, puisqu'au fond, il est aussi question d'Ovide que de vous et d'autres écrivains. On parle énormément de Joyce, de Pessoa, de Thomas Mann. Et donc, vous convoquez aussi tous ces écrivains. C'est un livre qui est aussi très lyrique, très, très élégiaque, car cette évocation d'Ovide s'entremêle de nombreuses réflexions. Déambulations aussi, qui sont des déambulations physiques ou des déambulations littéraires dans différentes œuvres que vous parcourez. Aussi dans vos propres textes, parce que j'ai l'impression qu'il y a des textes anciens. D'ailleurs, vous mettez des petits cailloux, hein, quand même, pour nous guider, des textes de 1994 où vous êtes, alors, en exil tout à fait doré à la Villa Médicis. Vous le vivez assez mal, d'ailleurs, dans ces paysages écrasé de beauté, peut-être trop de beauté, comme disait Madame de Noailles en ouvrant ses volets sur Venise. Et elle partit d'ailleurs, incapable de supporter ce trop de beauté. Dans la question que je vais vous poser, c'est que pourquoi Ovide vous touche au point de vous y identifier, dans la mesure où lui a été exilé parce qu'il a été disgracié, ça a été un exil imposé. D'ailleurs, il est même relégué, relegatus en latin, c'est-à-dire qu'il doit partir, il part avec ses domestiques, il parle. Mais c'est une volonté politique derrière cet exil, c'est un châtiment. Or, vous l'avez choisi, cet exil.
Je l'ai choisi en dépit des circonstances historiques de l'Algérie des années 90, c'est-à-dire que j'avais le choix et pas le choix, en fait. Donc j'aurais pu peut-être rester en Algérie, mais c'était un peu, ça aurait été d'une certaine manière me couper de toute possibilité de devenir écrivain ou. Et puis de poursuivre mes études de lettres que je faisais à l'époque dans une petite ville de l'Est algérien. Donc il fallait vraiment partir, c'était la guerre civile et j'ai eu cette chance de pouvoir me sauver. C'est pour ça que mon exil est paradoxal, parce qu'au départ j'étais très content de partir. Mais ce qui m'a, mais 20 ans après, enfin plus de 20 ans, c'était en 94, on est quoi, 24 ans après, je commence à me poser des questions sur ce choix. Mais c'est idiot de vouloir refaire l'histoire, en fait.
Je voudrais que vous entendiez lire un extrait, en fait le début, en fait, hein, Salim Bachi.
J'ai souvent ressenti la morsure de l'exil. C'est de ce sentiment douloureux dont je voudrais parler dans ce court voyage littéraire en compagnie du poète antique Ovide, qui mourut aux marges de l'Empire romain, comme je mourrai un jour en France ou ailleurs. Nous venons au monde seul et nous le quittons de la même manière. L'illusion est de croire que nous terminerons notre course entourés de nos parents ou amis. Nos vies sont placées sous le signe de l'exil, sous le triste signe d'Ovide. En l'an 8 après Jésus-Christ, Ovide est relégué par Auguste à Tomis, l'actuelle Constanța, en Roumanie, au bord de la mer Noire. Sur cette petite île, il résidera dans une villa qui constituera son unique royaume. Quelles sont les raisons de cet exil? Les historiens ne s'accordent guère. Certains avancent qu'Ovide aurait eu une liaison avec Julie, la fille d'Auguste, ce qui paraît invraisemblable, ou aurait pratiqué la divination, interdite en ce temps-là, plus vraisemblable, les Romains étant superstitieux et prompts à s'en remettre aux augures. À lire Ovide, quand il veut se défendre, c'est tantôt L'Art d'aimer, le traité de l'amour et de l'adultère, tantôt une indiscrétion qui lui aurait valu les foudres d'Auguste. C'est sans doute un peu de tout cela, un courtisan indiscret dont les libertinages ont dû heurter la morale d'une époque qui n'est pas sans ressembler à la nôtre.
Alors pourquoi lui, Salim Bachi, plutôt que ces autres écrivains exilés dont vous parlez, qui sont Thomas Mann, Pessoa, Stefan Zweig? Pourquoi finalement c'est l'exil d'Ovide et pas l'exil de Stefan Zweig ou l'exil de Pessoa?
Parce qu'ils sont trop proches de nous, Stefan Zweig, Thomas Mann et Pessoa, et puis ce sont des monuments et on nous alors que Ovide est quand même loin, finalement il est assez loin, et puis si proche en même temps quand on lit Les Tristes et les Pontiques traduits par Marie Dariusset, comme vous l'avez dit. Et du coup, je trouvais que c'était beaucoup plus facile pour moi de m'introduire dans Ovide, quoi, en fait.
La distance permet ça.
Je dis ça, c'est...
Oui, oui, non, non, mais c'est, on n'est pas chez Flaubert. Hein. Marie-Hélène Lafont, vous vouliez lire un passage de Salim Bashi. Vous m'avez demandé ça tout à l'heure et je vous exauce avec joie.
Il ne faut pas qu'Ovide soit oublié. Ovide ne sera pas oublié. Ressasse les missives poétiques qui sont à la fois une charge contre Auguste et son silence et un appel pressant à la mémoire des siècles. Même mort, Ovide ne reviendra jamais à Rome. Auguste refusera qu'il y soit enseveli. J'ai toujours admiré la croyance paradoxale de certains dictateurs en la force redoutable de l'esprit. Celle-ci est d'autant plus vigoureuse qu'ils s'y attaquent violemment par les armes du bannissement ou du meurtre, physique ou symbolique. Refuser même l'inhumation ou la crémation d'Ovide à Rome, n'est-ce pas conférer à ce dernier une puissance absolue ? Il faut toujours recevoir, lorsqu'on est artiste, ces violences d'État comme un hommage. Bien sûr, j'eusse préféré un Federico Garcia Lorca vivant.
Pourquoi ce passage-là, Marie-Hélène Lafont ?
Pour le subjonctif plus que parfait, j'eusse préféré. Hein, et d'autre part, pour la force de ce qui est dit sur le risque et la liberté d'écrire et ce que cela peut engendrer, le prix que ça peut coûter et combien il est nécessaire que toujours ces risques soient pris.
Il y a énormément de violence dans ce texte, Salim Bashi. On est à la fois dans l'élégie, hein, puisqu'il s'agit des... pour rester dans la tonalité ovidienne, mais aussi dans la violence, quand vous parlez notamment, quand vous généralisez, c'est-à-dire quand vous sortez de vous-même, ils me paraissent monstrueux, les hommes qui n'ont pas ancré en eux le sentiment de leur étrangeté sur Terre. Il y a tout un passage qui se déroule à la Villa Médicis, où vous êtes à Rome, vous décrivez les touristes, même les autres artistes qui sont là, et on sent, alors il y a une construction, hein, évidemment, littéraire. Ovide, d'ailleurs, avait construit ses lettres poèmes pour qu'il soit une œuvre littéraire en soi. Mais c'est comme s'il y avait une volonté vraiment de redoubler l'exil physique, même quand il est choisi, par un exil mental auquel il faut presque s'accrocher pour pas être comme les autres.
Je voulais remercier d'abord Marie-Hélène Lafont pour sa lecture. Merci, hein, c'est vraiment très très beau. J'adore vous entendre me lire.
Merci.
C'est très égoïste.
Elle lit très bien.
Merci. Merci beaucoup. Oui, il y a une volonté comme ça. Mais tous les écrivains, mais c'est Proust qui disait ça. On écrit en une langue étrangère d'abord. Et puis je crois qu'on se sent forcément exilé quelque part. Sinon, on ne serait pas écrivain. Je sais pas ce que vous en pensez, Marie-Hélène Lafont. Mais si on se sentait comme tout le monde, je crois qu'il n'y aurait pas besoin d'écrire, finalement.
Mais j'ai été frappée par ce que vous avez dit tout à l'heure. Si vous étiez resté en Algérie, vous pensez que vous n'auriez pas écrit ?
Probablement, oui, probablement. Parce que pour différentes raisons, parce que je n'étais pas dans un contexte très épanouissant et que je vivais chez mes parents. Contrairement à Flaubert, moi, je n'ai jamais été pour vivre chez ma mère. Et je trouve qu'il y avait j'avais ce besoin de liberté, en fait, en partant. C'est vraiment ce besoin de liberté. Ensuite, est-ce qu'on se construit une prison mentale en exil ? Est-ce qu'on se fabrique son exil aussi ? Oui, c'est probable, oui, c'est probable.
Vous le dites, hein, je vous cite plus sérieusement, il s'agit avant tout de continuer à explorer le mythe de l'écrivain divorcé avec le monde, à la fois agent et sujet de sa propre fiction, dépositaire d'une tradition ancienne et néanmoins introuvable, habitant d'un lieu et citoyen du néant. Ce qui est très paradoxal, puisque vous parliez de l'Algérie, Marie-Hélène Lafont, c'est que vous faites plusieurs fois référence à un Éden perdu. Vous parlez même de Adam et Ève, hein, chassés du paradis. Alors effectivement, c'est un motif qui revient souvent, très baudelairien, hein, le vert paradis des amours enfantines, pour ne citer que lui. Mais c'est très paradoxal parce que quand vous parlez de votre enfance, parce qu'il est question aussi du sentiment de nostalgie, et je voudrais vous interroger sur ce mot-là, vous dites que cet Éden n'en était pas un, puisqu'il était marqué par la guerre, et que c'est une jeunesse enfermée. Que le narrateur... Alors le narrateur ou vous d'ailleurs, qu'est-ce que... On dit c'est Salim Bashi ou on dit c'est le narrateur ? Est-ce qu'on est dans la construction littéraire ou
oui,
est-ce
c'est
que...
Salim Bashi, non, mais j'assume le fait que quand je parle d'Ovide, quand je parle de l'exil, c'est Salim Bashi, oui. Ou quand je parle de ma situation au moment de l'écriture, parce que c'est un livre aussi sur l'écriture, au moment même où il s'écrit, c'est Salim Bashi, oui.
Et sur ce paradoxe, faire constamment référence à un Éden, à une nostalgie pour un... pour un Éden perdu, alors même que quand vous en parlez, c'est un Éden qui était marqué par la guerre et vous étiez enfermé en fait.
Oui. Non, c'était pas un Éden. Sinon, je serais pas parti en fait. Mais le sentiment lui-même de l'exil n'est pas forcément conditionné par les par la situation de départ. Je veux dire, on peut s'exiler parce qu'il y a une guerre, on peut partir de parce qu'il y a une situation dramatique ou parce qu'on en a vécu. On a subi les foudres d'un dictateur et puis on peut partir. Il n'empêche que le sentiment de l'exil existe et qu'il n'est pas forcément lié à cette première rupture.
Oui, la patrie ne change rien, ne fait rien à l'affaire.
Oui, je me suis senti autant en exil, sinon plus en Algérie quand j'étais jeune, qu'à Paris maintenant.
Pourtant, la nostalgie, étymologiquement, c'est la douleur du retour.
Oui, du retour.
Donc il y a bien l'idée d'un retour à un endroit d'où on serait, qui peut être peut-être esthétique, oui, Marie-Hélène.
Mais il me semble que Salim Bashi le donne d'emblée ce retour comme impossible. Et c'est là qu'il y a quelque chose de douloureux qui se creuse. Il n'y a pas de retour.
Non, il n'y a pas de retour possible. Et puis je crois que de toute façon, littérairement, c'est pas très intéressant de... Ce serait pas très intéressant de le faire. Je crois que c'est intéressant d'en parler, d'essayer de comprendre ce qui se passe, mais ça serait pas intéressant pour moi de revenir, par exemple, en Algérie.
Vous parlez de...
C'est vraiment très personnel.
Vous revenez sur nombre de figures d'exilés, des exils qui ont souvent fondé une œuvre. Vous parlez notamment de Joyce, en fait, à Trieste, d'abord à Rome, puis à Trieste. Il y a aussi, c'est aussi un, vous parliez de monument tout à l'heure, c'est aussi un monument à l'exil que vous voulez, monument c'est peut-être un peu trop grandiloquent, mais un petit tombeau pour ces grandes figures d'exilés que vous voulez construire avec ce livre-là, parce qu'ils sont pas tous là, mais ils sont beaucoup
J'ai
là.
J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup d'écrivains qui étaient des exilés, effectivement, beaucoup. Surtout les écrivains du XXe siècle, beaucoup plus que dans le XIXe siècle, où effectivement on n'a pas on a moins ces exils. Mais au XXe siècle, c'est quand même plein, il y a beaucoup, beaucoup d'écrivains qui sont en exil. Et qui écrivent en exil, en fait.
Oui, dernière question, Salim Bashi, sur cet exil, peut-être la dernière couche d'exil de ce livre, qui est aussi un travail, comme chez Marie-Hélène Lafont, vous tressez, il y a d'anciens textes, de nouveaux textes, on passe de Joyce à Thomas Mann, on revient à Ovid, on passe à Salim Bashi, il y a un côté brodage, tapisserie d'ailleurs, pour pas
faire référence à Pénélope, c'est ça.
Voilà. Oui, c'est une sorte de broderie.
Oui, c'est un travail sur plusieurs textes, en vérité, et qui est pas forcément, je vais jouer contre mon camp, comme disent les footballeurs, mais c'est pas forcément un texte qui a été écrit dans la continuité, c'est un texte qui fait partie, qui est un assemblage aussi de plusieurs textes sur plusieurs années.
Et dans cette broderie d'exil, évidemment, il y a la poésie d'Ovide, que vous utilisez dans la traduction, dans la belle traduction de Marie Dariussec, j'en lis encore une, et puis on s'arrêtera là-dessus. Souvent, l'étranger prend demeure dans l'esprit de sa compagne, lui parle, l'aime et l'emprisonne. Mais alors je me suis dit, pourquoi ne pas l'avoir cité en latin ? Est-ce que vous ne l'avez pas exilé dans une autre langue ?
Doublement,
finalement
c'est ça.
Exactement.
Non, je suis incapable de citer en latin parce que je ne suis pas un latiniste et que je n'ai pas fait de latin. J'ai pas fait de latin, donc je n'ai pas une éducation classique. Donc pour moi, il passe par la traduction, effectivement. Mais je ne sais pas j'ai un peu du mal avec la traduction. Justement, je me posais la question quand vous parliez de la langue chez Flaubert et tout ça, et je me disais, Flaubert traduit, qu'est-ce que ça donnerait, quoi.
Ah oui.
Alors, votre réponse.
C'est une question vertigineuse et très douloureuse.
Vous avez essayé de le lire un peu en anglais?
Non, parce que je ne maîtrise suffisamment bien aucune langue étrangère pour être capable justement de sentir ces affaires-là. Mais je retourne, comment lire Faulkner? Forcément en traduction. Et ça, vraiment, pour moi, c'est une interrogation mais majeure. Et pour revenir sur le latin, il eût été possible de mettre le texte latin en regard du beau texte de Marie Dariussec.
Oui,
il y aurait eu un peu de corps latin présent dans votre beau livre.
Je mettrai plus de corps latin la prochaine fois.
Et il y en a du corps latin.
Il y a du corps latin, il y a pas mal de corps latin, mais on n'a jamais assez de corps latin. Merci pour cette conclusion,
Marie-Hélène Lafont. On n'a jamais assez Lafont. De corps latin.
Et grec, n'oublions pas les grecs. Les références de vos livres. Salim Bashi, L'exil d'Ovide, c'est chez Lattès. Et Flaubert, par Marie-Hélène Lafon, chez Buchet-Chastel. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Le temps des écrivains, c'est Anne-Catherine Lochard, Alexandra Longuet, à la technique Frédéric Changenet, avec la complicité aussi de Joyce Brunet-Jailly. Vous pouvez nous suivre et commenter sur Facebook et Twitter, podcaster pendant un an et réécouter pendant un temps infini, je crois, sur franceculture.fr, 7h, avec Salim Bachy et Marie-Hélène Lafon.